Matin, je veux partager une pensée que j'ai depuis plusieurs semaines et le titre du message que j'ai donné ce matin, c'est « Jésus, je te suivrai ». Et je vais parler avec vous dans la dimension de Jésus lorsqu'il a invité les disciples à le suivre. Et je veux partager, bien sûr, majoritairement, deux choses importantes que ça l'a fait et ça l'a accompli à l'intérieur de la vie de ces hommes, alléluia, et bien sûr, après la mort de Jésus-Christ, de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi de répondre et de dire oui à Jésus, je te suivrai. Parce que même si Jésus n'est pas physiquement assis aux côtés de vous ce matin, je veux vous dire qu'il est là à l'intérieur de nos vies. Il est celui qui nous invite à le suivre, qui nous invite à cette décision-là de marcher avec lui, de le suivre. Cet appel-là, c'est un appel qui est continuel. C'est un appel qui est continuel. Et alors qu'on va partager ensemble de suivre Jésus-Christ, de ce que ça l'a amené à l'intérieur de leur vie, j'aimerais qu'on puisse se poser la question ce matin, mettre notre vie devant le Seigneur et de regarder de là où on est présentement et de se poser la question, Seigneur, est-ce que je suis ou est-ce que je vis ma vie présentement dans la dimension d'un disciple ou d'une disciple? Est-ce que je vis ma vie dans la dimension de ce que je réponds à cette question, je te suivrai. Il y a dans la parole de Dieu, autant dans l'Ancien Testament, où Dieu s'est cherché des hommes et des femmes pour le suivre, accomplir sa volonté, de changer, de transformer leur vie avant même de servir et dans l'accomplissement même du service. On va prier ensemble. Seigneur, on veut te prier de bénir cette prédication ce matin. Que tu puisses parler à nos cœurs, que dans la réflexion dans laquelle on veut se tenir devant toi, ton Esprit Saint, alléluia, puisse parler à nos cœurs. Nous ne voulons pas seulement entendre ce matin, mais nous voulons réfléchir, nous voulons recevoir. Seigneur, on veut même sonder nos vies et sonder nos cœurs devant toi. Et Seigneur, puisses-tu me donner toute l'agilité, Seigneur, la fraîcheur à travers cette parole, alléluia, et que nos vies soient visitées et rencontrer. Seigneur, on veut aussi te prier pour la jeunesse qui quitteront pour aller à cet endroit, Dieu, pour faire du bien dans cette résidence. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses, que tu leur donnes de briller. Seigneur, que pour ces aînés qui sont là, ça soit un moment de rafraîchissement, que ça soit un moment de pur bonheur. Seigneur, que ça soit un moment de bénédiction à l'intérieur de leur vie. Seigneur, que les gens même qui servent, je veux oser croire, que même les gens qui servent, alléluia, sois béni et sois rencontré à travers nos jeunes seigneurs de cette église. Nous voulons, alléluia, pas seulement les envoyer, mais nous voulons être avec eux dans la prière. Seigneur, on veut juste être une bénédiction pour notre ville. Nous voulons que cette église, alléluia, puisse faire du bien autour d'eux, Seigneur, dans la ville dans laquelle on est. Parce qu'on te remercie pour cette ville, pour les environs, Seigneur, pour Shawinigan, pour Trois-Rivières, pour toutes les villes environnantes. Seigneur, jusqu'à Latuc et Dieu, jusqu'à de là, Dieu, où des gens dans cette église en font partie. Seigneur, que nous puissions être des hommes et des femmes qui fassent, Seigneur, qui vont faire du bien autour d'eux. Alors, on recommande toutes choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Dans la parole de Dieu, Jésus va appeler les disciples et va partager avec eux, il va les amener à vouloir les amener dans une dimension de pas seulement être quelqu'un qui fréquente Jésus-Christ. Il y avait, alors que Jésus était sur la terre, comme maintenant dans notre société, dans notre monde, il y a des gens qui vraiment vont devenir et vont vivre leur vie comme des disciples de Jésus-Christ et il y a des gens qui vont fréquenter Jésus-Christ. Il y a des personnes qui ont fréquenté Jésus, mais il y a aussi des hommes et des femmes dans la parole de Dieu, alléluia, qui ont été impactés par la personne de Jésus-Christ, qui ont choisi de suivre, qui ont choisi, alléluia, que leur vie pouvait être dédiée, non pas d'abord et avant tout au service, mais à la personne même de Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde dans la parole, alléluia, il y a des hommes et dans la Bible, comme par exemple, il y a Pierre. Alors que dans Luc chapitre 5, verset 6, ça dit, l'ayant jeté, ils partirent, ils prirent une grande, et bien sûr, c'était la pêche miraculeuse, et leurs filets se rompaient, ils furent signes, les compagnons et tout ça, et le verset 9, ça dit, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ou encore, dans le livre de Matthieu, le chapitre 4 et le verset 18, Jésus va dire à ce moment-là à Pierre, à André et son frère et tout ça, il va dire, il leur dit au verset 19, « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Jésus a invité ces hommes, alléluia, à le suivre. Il a invité ces hommes à devenir, bien sûr, des disciples, mais dans la dimension de cela, il y a une dimension de suivre le Seigneur, de marcher à sa suite. Et lorsque Jésus va les inviter, il va les inviter à pouvoir le suivre, lui. Alors, il y a des gens qui bénéficiaient, des gens qui fréquentaient Jésus, et il y avait des gens qui suivaient Jésus. Il y a des gens qui fréquentaient dans leur vie, Jésus avait un impact à l'intérieur de leur vie. Des gens pouvaient être guéris. Des gens pouvaient entendre le message de Jésus-Christ. Des gens pouvaient recevoir. Mais alléluia, à travers cette dimension-là, il y a des hommes et des femmes dans la Bible qui ont choisi de le suivre. Et cette invitation à Pierre, bien sûr, s'est multipliée à l'intérieur de sa vie. Alors que Jésus a été crucifié, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, Jésus va faire cette même dimension ou cette même demande à Pierre. Alors que Pierre avait renié Jésus dans Jean chapitre 21, Jésus va dire à Pierre encore à ce moment-là, il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. Pierre, alors que tu m'as renié, alors qu'on est là ensemble, alléluia, suis-moi, viens et marche derrière moi. » Pourtant, Jésus, à ce moment-là, savait qu'il était pour quitter et aller, comme on a chanté ce matin, s'asseoir à la droite de son Père. Pourtant, il invite, alléluia, Pierre à le suivre dans cette dimension-là. Il va le faire aussi avec d'autres hommes à travers la parole, comme par exemple, il y a ce disciple, Nathanaël, où le Seigneur Jésus va se révéler, et je vais attirer votre attention sur certaines choses par rapport, et je crois que ce qui était vrai pour ces hommes, c'est aussi vrai pour nous. Ce qui était vrai pour Nathanaël, ce qui était vrai pour Pierre, ce qui était vrai pour Jean et pour les autres, c'est aussi vrai pour nous. Regardez bien dans ce texte-là, ça dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 46, Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bien? » Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Alors que Philippe est là et que Philippe a entendu, là, Jésus lui s'est révélé à lui, il va aller vers Nathanaël et va dire à Nathanaël de venir et de pouvoir connaître le Seigneur. Et Jésus va dire ceci, Jésus voyant venir à lui, Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » C'est une parole très glorieuse que Jésus est en train de dire à Nathanaël. Rappelons-nous, on a parlé la semaine passée que la dimension du judaïsme, c'était de reconnaître Dieu comme le seul, vrai Dieu comme le seul roi des rois. Alléluia! Et alors qu'il est là, que Jésus voit cet homme, Nathanaël, va dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Et là, Nathanaël va dire à Jésus une parole qui est intéressante. Alors que Jésus va dire ça, Nathanaël va dire, d'où me connais-tu? D'où tu me connais, Seigneur? Tu es en train de dire une parole, non seulement sous mon apparence. Tu n'es pas en train de me dire que j'ai une belle robe. Tu n'es pas en train de me dire que j'ai une belle tunique. Tu n'es pas en train de dire que je suis bien peigné, que mes sandales sont belles, que mes pieds sont propres. Tu n'es pas en train de dire que j'ai des yeux bleus, mais tu es en train de déclarer une chose qui m'est très personnelle. Quelque chose qui est très personnel à qui je suis. Et à ce moment-là, il va dire, d'où me connais-tu? Et des fois, on peut avoir l'impression dans nos vies, Seigneur, d'où me connais-tu? Est-ce que Dieu, tu me connais vraiment? Est-ce que tu sais vraiment qui je suis? Pourtant, Jésus n'avait pas eu de grandes discussions avec Nathanaël pendant plusieurs jours. Il n'avait pas pris nécessairement une semaine de vacances avec Nathanaël. Et là, lorsqu'il est là dans le texte, il lui dit Nathanaël, Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, avant que quelqu'un t'appelle, avant que Philippe t'adresse et te dise de venir me voir. C'est dit, alléluia, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui nous est révélé dans ce texte-là. C'est à la dimension de ce que Nathanaël reconnaît, la divinité de Jésus-Christ, à la lumière de ce que Jésus le connaît, de ce que Jésus connaît Nathanaël. En fait, lorsqu'on regarde dans le texte, qu'on voit les choses, bien sûr, Nathanaël qui était là avait probablement s'était retiré sous un figuier près du chemin, il croyait probablement dans la solitude, parce que le texte dit avant que tu sois là, tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Probablement que Nathanaël s'était retiré à un endroit, se croyant seul, pouvant ouvrir son cœur. Probablement dans sa pensée, qui n'était pas sous le regard des gens qui étaient là. Mais lorsque Jésus dit à ce moment-là, il y a des fois dans nos vies, je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression qu'on n'est pas vu. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas vu. Il y a d'autres fois où on voudrait ne pas être vu. Et il semble que dans la pensée de Nathanaël qui était là, il s'était retiré. Et à cet endroit-là où Nathanaël semblait être seul, semblait ne pas avoir de regard dans son cœur, personne ne le voyait. Le texte dit, alléluia, que Jésus voyait Nathanaël. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, je pense que c'est tellement un super encouragement de savoir que Dieu nous voit, mais que Dieu ne voit pas seulement ce que l'on a l'air de façon physique, mais que Dieu connaît bien nos cœurs, que lorsque Jésus a vu Nathanaël sous le figuier, il n'a pas juste vu quelqu'un d'un regard. Et dans le texte, la pensée du texte n'est pas de seulement que j'ai eu un regard sur qui tu étais. Mais alléluia, j'ai vu qui tu étais, Nathanaël. J'ai pas juste eu un regard à la lumière de ce que tu avais l'air, mais j'ai eu un regard de qui tu étais, Nathanaël. Parce que quand Jésus décrit Nathanaël, ce n'est pas dans une dimension de ce qu'il a l'air, mais une dimension de ce qu'il était. Dans notre société présentement, on a beaucoup de choses de ce qui peut avoir l'air dans notre société. On peut avoir plein de façons de communiquer, mais dans la façon de communiquer, alléluia, c'est juste qu'on a l'air. C'est facile de photographier notre lunch, puis de le poster sur Facebook. Mais ça dit pas si t'étais malade après avec. OK? C'est facile aujourd'hui d'avoir, dans notre société, d'avoir quelque chose qui a l'air. On peut faire un FaceTime, on peut se voir, mais on ne sait pas nécessairement qui on est. On peut se saisir, on peut avoir certaines possibilités de ce qu'on peut poster sur quelque chose ou poster pour les plus âgés. Et dans cette dimension-là, ça ne révèle pas nécessairement notre intérieur, si on va bien ou si on ne va pas bien, ou de qui on est de façon intérieure. Mais j'aimerais nous dire que Dieu connaît bien, sait bien, ce que l'on est. Et à travers ça, la référence que Jésus fait sur Nathanaël, c'est la référence de ce qu'il est à l'intérieur. Et à la lumière de ce qu'il déclare, à la lumière, le regard de Jésus-Christ a non seulement découvert là où était Nathanaël, non pas seulement découvert un lieu où était Nathanaël, mais alléluia, plutôt pénétré jusqu'au fond de son cœur, reconnaissant ses sentiments, ses émotions, ce qui l'occupait même à ce moment-là. Et j'aimerais nous dire à nous dans ce lieu ce matin que c'est le regard que Dieu porte sur qui on est. Que le regard de Dieu, alléluia, voit ce que tu vis aujourd'hui, tes émotions, tes sentiments, tes situations compliquées, de comment tu vas, de qu'est-ce qu'on peut vivre à travers nos vies. Et à travers ça, il dit, « Je t'ai vu ». Et rien, alléluia, ne pouvait nécessairement expliquer cette parole-là par rapport à la dimension de tout ce que Jésus voyait intérieurement. Mais à ce moment-là, il semble que dans la vie de cet homme, il a pris conscience, ça lui a fait prendre conscience de la divinité de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, alléluia, il a pris conscience qu'il était en présence, alléluia, du Fils de Dieu. Qu'il était en présence du Fils de Dieu et c'est pour ça qu'il va déclarer, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël, tu es le Messie qu'on était en attente, qu'on attendait. Je reconnais la lumière. Pourtant, ça semblait être super simple. Mais Nathanaël a reconnu, alléluia, la dimension de la divinité de Jésus-Christ à la lumière du regard qu'il avait sur sa vie. Parce que cela, pour Nathanaël, seulement celui qui pouvait connaître qui il était dans toute sa profondeur, qui avait pu le voir dans ce qu'il était, alléluia, c'était le Fils de Dieu. Et à ce moment-là, Nathanaël va accepter, va recevoir et va suivre Jésus-Christ. Bien sûr, de suivre Jésus, c'est laisser Jésus-Christ marcher en avant. C'est le suivre, lui. En fait, être en contact avec Jésus, c'est bénéficier de ce que Jésus est, mais ce n'est pas nécessairement le suivre. Suivre Jésus, c'est marcher à sa suite. C'est vouloir, alléluia, marcher là où il va. C'est aller là où il veut aller. C'est choisir ce que Jésus veut pour nos propres vies. C'est choisir la volonté de Dieu. C'est choisir la volonté de Jésus à l'intérieur de nos vies. Ce n'est pas seulement de connaître sa volonté, mais alléluia, c'est choisir, s'approprier, c'est marcher. Ses disciples ont choisi, lorsqu'ils ont été invités, alléluia, ils ont choisi. Cette semaine, dans une discussion avec quelqu'un, cette pensée-là a été amenée, ça m'a tellement béni, ça m'a tellement fait réfléchir dans la dimension de choisir. On peut connaître la volonté de Dieu, mais est-ce qu'on se l'approprie? Est-ce qu'on la choisit? Des fois, on sait, on peut savoir ce que Dieu veut, mais est-ce que je suis prête à la choisir? Est-ce que je suis prête à me l'approprier? Le jeune homme riche dans la parole de Dieu a reçu cette même invitation. Mais pourtant, alléluia, il ne s'est pas approprié. Il n'a pas choisi la volonté de Jésus-Christ ou l'appel de Jésus-Christ à le suivre. Pourtant, plein de gens, alléluia, peuvent bénéficier de Jésus-Christ. J'aurais pu vous sortir maintes et maintes textes dans la parole d'hommes et de femmes qui ont côtoyé Jésus-Christ. Et qui, du fait qu'ils ont côtoyé, alléluia, comme par exemple les lépreux, ils ont tous été guéris. Mais pas tous ont choisi de suivre Jésus-Christ. La beauté, la grandeur de l'amour de Dieu, alléluia, fait que les gens qui sont en présence de Jésus bénéficient de qui il est dans sa divinité, dans sa royauté et dans sa puissance. Mais le suivre Jésus-Christ, alléluia, nous la donne de nous approprier sa volonté pour nos propres vies. Jésus-Christ est lui-même ce qu'il a fait envers la volonté de son Père, envers qui il était. Non pas ma volonté, mais je choisis la tienne. Je m'approprie ta volonté. Ta volonté devient mienne. Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement de connaître sa volonté, mais c'est de se l'approprier. Choisir la volonté de Dieu à l'intérieur de nos vies. Suivre Jésus-Christ, bien sûr, fait appel à un renoncement, à renoncer à certaines choses. Dans Marc chapitre 10, le verset 21, vous pourrez le lire si vous voulez à la maison. Mais toute cette histoire, c'est cette histoire, alléluia, avec ce jeune homme riche. Et bien sûr, tout l'amour de Jésus-Christ, alléluia, pour ces hommes était le même amour que Jésus avait pour Matthieu, avait pour Pierre, avait pour Jean, avait pour Nathanaël. Alléluia. Et bien sûr, toute la dimension, ce jeune homme riche-là vient vers Jésus et demande. Et Jésus va l'inviter non seulement, alléluia, à avoir l'éternité, mais à avoir, à le suivre. Et il y a quelque chose dans le texte qui est là, lorsqu'il nous est parlé de renoncement. C'est dans Matthieu chapitre 10, verset 21, ça dit, Jésus l'ayant regardé, lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens. Et suis-moi. Je dis souvent, si on prend ce texte pour parler en ce qui concerne contre l'argent, en fait, je vais vous dire qu'on passe ce côté de la vraie vérité de ce texte-là. Ce que Jésus est en train d'adresser, c'est pas le fait de la richesse de ce jeune homme-là. C'est pas un péché à être riche. C'est pas un péché à avoir de l'argent. Ça a rien à voir avec tout ça. Dans notre société ou dans notre monde passé, dans les années passées, on a essayé d'amener de toute la pensée que au niveau de richesse et de tout ça, mais je pense qu'on est passé aux côtés d'une grande vérité. Si on fait seulement sortir 5 piastres ou 20 piastres, peu importe, là, puis de faire référence à l'argent, le papier en lui-même, on passe aux côtés de quelque chose. Parce que la vraie réalité, c'est que Jésus, alléluia, parle d'un trésor. que ce trésor-là, est-ce qu'il demande à cet homme-là d'être prêt à renoncer à ce qui semble être le trésor à l'intérieur de sa vie, à renoncer à ce trésor qui l'empêchait, alléluia, de suivre Jésus-Christ. La réalité, si je peux donner une image, c'est plutôt qu'à l'intérieur de cette personne-là, il était attaché avec une chaîne à l'intérieur de son cœur qui était relié à quelque chose qui était derrière lui, qui était son Dieu, qui était ce qui était toute sa priorité, ce qui était son trésor. Et cette chaîne-là, bien qu'il aurait voulu, dans le sens que si de suivre Christ, la chaîne, si elle n'était pas coupée, si elle n'était pas brisée, elle l'empêcherait d'aller et de suivre Jésus-Christ. Je veux juste vous dire quelque chose. Cette chaîne-là ne l'empêchait pas de faire de bonnes œuvres, mais elle l'empêchait de suivre Christ. Cette réalité-là, c'est que cet homme-là, lorsqu'on lit dans le texte, c'était une bonne personne. C'était probablement quelqu'un que tu vas avoir pour ton ami. Pas seulement parce qu'il y a de l'argent, mais parce que c'est probablement une bonne personne, puis après parce qu'il y a de l'argent. Mais la réalité, lorsque tu te retrouves dans cette dimension-là, ce jeune homme-là pouvait faire de bonnes œuvres, mais ça l'empêchait de suivre Jésus-Christ. Alors, ce que Jésus demande, c'est de changer le trésor de place. Ça dit, alléluia, non seulement il amène dans une pensée d'un renoncement, mais il l'emmène à changer le trésor de banque. Et le trésor, ça dit, et tu amasseras un trésor dans le ciel. Il est en train de dire, alléluia, c'est pas sur la terre, ça sera pas dans une dimension où tu vas ramasser pour quelque chose qui est maintenant, mais pour quelque chose qui est éternel. Et je veux juste nous amener la pensée que cet homme-là ne perdait pas quelque chose en soi. Il renonçait à ce qui l'empêchait de suivre. Mais alléluia, il y avait toujours des trésors. C'était toujours un jeune homme riche. Dieu ne faisait pas, ou Jésus ne faisait pas de ce jeune homme riche-là un pauvre. Jésus faisait de ce jeune homme riche-là quelqu'un qui investit dans une autre banque. Qui faisait, alléluia, qui était probablement un jeune homme qui était plus riche, alléluia, dans ce que Jésus l'invitait à suivre et à marcher. Vous savez ceci, alléluia, des fois, il est possible que dans le renoncement, il y a une dimension où Dieu nous amène à l'intérieur de nos vies, dans des dimensions où on ne voudra pas aller, mais où on va être prêt à suivre le Seigneur. Et ici, je veux parler de cet homme, Pierre. Dans la parole. Alors que Jésus va dire à Pierre, « Pierre, suis-moi », il y a une dimension que Jésus va adresser dans la vie de cet homme. On sait que Pierre avait renié Jésus à cause de toute la situation dans laquelle c'était là. Et dans la situation dans laquelle il était, à ce moment-là, alléluia, Jésus va adresser à Pierre, et j'ai pas le temps ce matin de tout m'arrêter sur la dimension pour laquelle il le fait, mais je crois sincèrement que Jésus adresse dans la dimension de Pierre pour que enlever un poids de la vie de Pierre par rapport au reniement, puis qu'il pouvait encore suivre Jésus-Christ et que cet appel à le suivre était encore valable après le reniement qu'avant le reniement. Et alors qu'il est là, Jésus va parler à Pierre, va demander « Pierre, m'aimes-tu ?» Vous pourrez lire le texte dans l'Évangile de Jean, chapitre 21, verset 17 et suivant, et ceux à même avant. Et dans le verset 18, ça dit, Jésus parle, ça dit en vérité, Jésus parle d'une vérité très claire. Quand le terme « ceci » est dit à ce moment-là, c'est Jésus est en train de mettre une emphase sur quelque chose. Il dit, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te saindra et te mènera, et le texte dit, où tu ne voudras pas. C'est souvent pas des choses que l'on veut entendre. Dans cette dimension-là. C'est souvent pas une parole que l'on veut entendre dans la dimension où Pierre, quand tu étais jeune, et bien sûr, tu vas porter une ceinture qui te donnait la capacité d'aller où tu voulais, mais il va venir un moment donné dans ta vie, alléluia, où il y a quelqu'un, tu vas devoir étendre, et quelqu'un va te ceindre et va t'amener par où tu ne voudras pas. Et c'est le texte dit, il dit cela pour indiquer par quelle mort. Et là, le texte est intéressant. Parce que le texte dit pas que par quelle mort Pierre était pour mourir, mais dit par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, rendrait la gloire à Dieu. Et là, à ce moment-là, il y a toute la dimension de ce qui est là, de prendre part. Il est en train de dire, Pierre, il y a un moment dans ta vie où tu vas être amené à un endroit dans ta vie où tu nécessairement voudras pas aller. Et lorsque je lis ce texte-là et que Jésus parle à Pierre de ça, alléluia, je pense que Jésus connaissait bien cette dimension-là par rapport au jardin de Gethsémani. Il savait bien ce que Pierre, dans lequel il devrait subir. Et bien sûr, dans la dimension où Jésus avait pris, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Et le texte dit, « Tu étendras tes mains. » La Bible dit que Jésus a été amené comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Il y a toute la dimension dans laquelle il va se retrouver. Et là, c'est dit, il va étendre les mains. Et certains commentateurs vont dire qu'il va être amené dans un sens de persécution, c'est-à-dire, il ne voudra pas aller, puis il va... Mais dans un autre contexte, ça dit ceci, et je pense que les deux sont valables. Pierre ne voudra pas peut-être aller là, mais va quand même tendre les mains. Alléluia. Et dans la tradition, plutôt la pensée ou de ce que l'histoire semble dire, c'est que Pierre, la façon dont il serait mort, c'est pas la Bible qui dit cela, mais dans les traditions plutôt, ou dans l'histoire ou certaines choses qui est mentionnée, il semblerait que Pierre est mort crucifié la tête par en bas. Parce qu'il ne croyait qu'il n'était pas digne de mourir comme son maître. Mais alléluia, alors que la crucifixion, Pierre aurait demandé d'être crucifié la tête par en bas. D'étendre les mains. Alors, dans ce texte-là, d'étendre les mains, et bien sûr, on te ceindra, on t'attachera, on te clouera. Même si le texte dit pas qu'il va se faire clouer, mais tu vas être saint. Et à travers ça, on va t'amener à la mort. Et bien sûr, c'était peut-être pas ce que Pierre voulait en soi. Mais alléluia, ce qui en même temps, c'était super, super encourageant pour Pierre. Parce que Jésus est en train de dire, Pierre, ce que pas été capable de faire, quand est venu le temps de t'associer à moi, tu m'as renié. Mais je veux te dire qu'un jour, alléluia, parce que tu vas me suivre, je vais te rendre capable, alléluia, d'aller jusqu'à la mort pour moi. Des fois, on se pose la question, serais-tu capable, moi, de mourir pour Jésus-Christ? Serais-tu capable de telle et telle chose dans ma vie pour Jésus-Christ? Je pense que si on veut suivre Jésus-Christ, tout dépendant de si, est-ce qu'on est des gens qui côtoient Jésus ou est-ce qu'on est des gens qui suivent Jésus? Est-ce qu'on est des gens qui veulent suivre Jésus-Christ? On ne sait pas ce qui est devant nous. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'appel est la même. Et bien sûr, alléluia, Pierre va dire, quand sera-t-il des autres? Jésus, qu'est-ce qui va arriver avec les autres? Et Jésus va dire, Pierre, que t'importe? Toi, Pierre, des fois on suit Jésus parce que les autres suivent Jésus. Peut-être que des fois, on suit Jésus parce que notre épouse suit Jésus. Peut-être qu'on suit Jésus parce que notre époux suit Jésus. Peut-être qu'en tant qu'enfant, alléluia, on suit Jésus parce que nos parents suivent Jésus. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse et dire ceci. Si on veut que nos enfants suivent Jésus-Christ, ils vont souvent suivre l'exemple de quelqu'un qui va suivre Jésus-Christ. C'est plus facile dans cette dimension-là. Les parents de cette église, ce que vos enfants ont besoin de voir, pas des gens parfaits, pas des gens qui font pas d'erreurs, pas des gens que tout va être correct dans leur vie, mais ils ont besoin de voir des hommes et des femmes, une maman, un papa qui va suivre Jésus-Christ. Qui ne sera pas seulement quelqu'un qui va bénéficier, qui va côtoyer Jésus-Christ, mais qui va quelqu'un qui va suivre Jésus-Christ. Et Jésus va dire, Pierre, que t'importe, peu importe ce qui va arriver avec lui, avec Jean, que t'importe toi, Pierre, suis-moi, marche avec moi. Deuxième chose que je veux partager ce matin, c'est d'être un disciple, de répondre à cet appel ou de suivre Jésus va nous élargir à l'intérieur de nos vies, va nécessairement nous élargir à l'intérieur de nos vies. Et ça, c'est tellement important. Il y a certaines choses que je veux mentionner par rapport à ça, et je vais faire assez rapidement par rapport à cette dimension-là. Je veux juste mentionner que, et en même temps, je vais vous poser la question. Dans le fait que Dieu veut élargir nos vies en tant que disciples, il y a nécessairement des moments où il va y avoir un incontrôle. Pas un incontrôle de nos vies, nécessairement, de qui je suis, mais un incontrôle des situations. Dans la vie des disciples, lorsque je regarde la vie des disciples, à maintes et maintes reprises, Jésus les a amenés dans une dimension qui ne pouvait pas contrôler ce qui était devant eux. Que ce soit lorsque Jésus les a invités à aller dans la barque et la tempête. Ce matin, je vais te poser la question. Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne contrôles pas? J'espère que la réponse est oui. Parce que Dieu va t'amener à des dimensions à l'intérieur de ta vie que tu ne pourras pas tout contrôler, tout gérer. Que tu auras besoin de remettre ta vie pleinement et entièrement entre les mains de Dieu. Des fois, en tant qu'être humain, c'est un inconfort de ne pas sentir qu'on gère les choses comme on voudrait. Mais la réalité, c'est que ces hommes qui étaient Pierre, qui était un grand homme de grande capacité sur les eaux, l'a amené dans son propre domaine de sa vie à pas être capable de la gérer. C'est important ce que je suis en train de vous dire. Jésus a amené Pierre dans la propre dimension de sa vie à ne pas être capable de contrôler ce que lui avait réussi à contrôler pendant presque toute sa vie. Et il y a des dimensions dans nos vies, il y a des choses qu'on a besoin d'apprendre, à faire confiance, à remettre entre les mains de Dieu, à être capable de laisser le Seigneur agir et accomplir comme il veut le faire. Peut-être que ce matin, il y a des dimensions que dans ta vie, dans la vie de tes enfants, des personnes qui t'entourent, dans lesquelles tu n'es pas confortable parce que tu ne sembles pas contrôler ou gérer de la façon dont tu voudrais. Peut-être que tu te sens dans une barque comme les disciples dans la tempête dans ta vie. Je veux juste te dire, alléluia, que ça fait partie de suivre Jésus-Christ. De vivre des impossibilités, des choses qui nous sont incapables, que l'on ne peut pas. Ce n'est pas qu'on ne les contrôle pas, mais on est arrivé à un stade où on n'a pas la capacité de répondre à ce besoin-là. Les disciples s'est retrouvés devant des situations à maintes et maintes reprises, alléluia, d'impossibilité de gérer ou de contrôler, mais d'impossibilité de répondre aux besoins. Les disciples ont appris ça, par exemple pour la multiplication des pains. Les disciples voulaient contrôler dans cette dimension-là, parce qu'ils n'avaient pas la capacité de nourrir les 5000 personnes et plus. Et dans cette impossibilité-là, on gère les choses de façon humaine. Et Jésus va dire, faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Parce que dans votre impossibilité, alléluia, le miracle de Dieu va prendre place. On a besoin, en tant que disciple, d'être prêt à s'attendre de ce que Dieu est capable de faire et d'accomplir les choses dans l'impossibilité de nos vies. Peut-être ce matin, je te pose la question, est-ce qu'il y a des choses d'impossibilité dans ta vie? Est-ce qu'il y a de l'impossibilité dans ta famille? Est-ce qu'il y a de l'impossibilité, alléluia, dans ta vie personnelle? Être un disciple, suivre Jésus-Christ, je veux dire que Dieu va t'amener dans des impossibilités. C'est pas confortable. On n'aime pas ça, on n'est pas bien. Mais c'est ce qui nous change. C'est ce qui nous fait voir la gloire de Dieu. Autre chose que je veux partager, c'est suivre Christ. De temps en temps, c'est fatigant. Il y a un texte dans la parole qui m'impressionne, qui me donne de réaliser quelque chose. C'est dans Marc chapitre 6, verset 27. Comprenez bien le contexte dans lequel on se trouve. Ça dit, il envoya sur le champ un garde. Et là, bien sûr, c'est la mort de Jean-Baptiste, où Jean-Baptiste va mourir pour Dieu. Ça dit, il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plateau. Encore là, on découvre toute la méchanceté humaine. Ça dit, il la donna à une jeune fille. Et là, c'est pas quelque chose, c'est contre ce que un serviteur de Dieu. Ça dit, il donna à la jeune fille et la jeune fille le donna à sa mère. Les disciples de Jean, ayant pris cela, et là on parle des disciples de Jean, appris cela, virent prendre son corps et le mirent dans un sépulcre. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il avait enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. » Vous savez, on pense que le manque de temps est un phénomène des années 2000. Je vous dis que c'est une fausse conception. OK? L'être humain en soi, le courir a toujours. Je veux juste attirer votre attention sur quelque chose. Il y avait bien sûr le travail physique, mais il y a une dimension importante qui pour moi dans ce texte-là. Jésus parle à qui? Aux disciples de Jean qui avaient vu leur maître. Et à l'intérieur d'eux-mêmes, probablement intérieurement, sentimentalement, émotionnellement, physiquement, à l'intérieur de tout ce qu'ils étaient, vivaient une fatigue. Ces hommes-là qui sont arrivés, ce sont des hommes qui ont pris avec lequel ils ont été pendant ces moments-là et nécessairement les ont amenés à grandir, à avancer. Jean-Baptiste était là avec eux dans les moments. Ils ont vu les miracles de Dieu avec Jean-Baptiste. Et là, ils vont amener quelqu'un en terre dont la tête n'est plus rattachée au corps. Est-ce qu'on peut comprendre la dimension dans laquelle ces hommes et ces femmes ont été? Et Jésus, alléluia, à ce moment-là, a voulu les amener à l'écart. Ce matin, alléluia, je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez des fois intérieurement fatigué, épuisé intérieurement? Je vais vous dire qu'il est possible que quelquefois de suivre Christ nous amène à cette dimension-là. Je suis en train de dire quelque chose que pendant des années, on a dit le contraire. Que si tu suis Christ, tu ne seras jamais fatigué. Tout va toujours bien aller. Puis tout va toujours être correct. Puis toujours tu vas te sentir aussi frais qu'une rose du matin. Je me sens toujours comme une rose, moi. C'est juste que de temps en temps, j'ai l'impression qu'elle est en hiver. Qu'elle est gelée. Ou encore qu'elle a besoin d'un peu d'eau. En fait, la réalité de savoir le sentiment d'être fatigué quelquefois est une réalité de suivre Jésus-Christ. Et je veux même aller un peu plus loin dans ma pensée. Je vais faire attention. Mais est-ce qu'il est possible que quelquefois Dieu nous amène jusque-là pour nous amener, alléluia, à prendre conscience que c'est sur lui qu'on devrait se reposer? Que c'est sur lui, alléluia, qu'on devrait être capable de poser notre fondation de repos pour changer même nos propres priorités à l'intérieur de nos vies. Et en même temps, des choses que l'on vit intérieurement, des situations particulières dans lesquelles on vit, qui peuvent nous amener dans des dimensions de nos vies qui, quelquefois, intérieurement, psychologiquement, sentimentalement, émotionnellement, on est fatigué à l'intérieur. Que la seule chose qui prend place quand dans des situations, c'est qu'on explose, qu'on se met à pleurer, que la colère prend place, qu'on a moins de facilité à gérer qui on est. Des fois dans nos vies, alléluia, on se retrouve à cet endroit-là. Et trop souvent, alléluia, ce que l'on vit, c'est quoi? La culpabilité, la condamnation qu'on n'a pas appris. Je veux juste vous dire aujourd'hui, alléluia, que ce que Jésus a dit, c'est pas dire, ouais, franchement, émotionnellement, vous êtes pas forts, les gars. Franchement, pour être mes disciples, ça prend quelqu'un qui émotionnellement, puis que dans sa tête, il soit un peu plus. Jésus va juste dire, venez, on va aller à l'écart. On va prendre un moment ensemble. On va prendre un temps ensemble. Alléluia, je reconnais, je vais vous dire ceci, Dieu reconnaît nos capacités. Les gens dans cette église, je veux que vous sachiez que Dieu sait ce qu'on est capable. Pourquoi? Parce qu'il nous y a créés ainsi. On n'a pas toutes les mêmes capacités. Des fois, on regarde des gens qui ont des possibilités autour de nous, puis on se sent diminué. Jésus n'a pas comparé certains disciples avec les autres, parce que la réalité, c'est qu'il y avait probablement des disciples moins fatigués que les autres. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit, non, Jésus, on n'a pas de temps à perdre. Jésus a dit, venez à l'écart, alléluia. Ça dit, ils lui racontèrent tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. C'est ce que les disciples qui ont mis Jean en terre ont dit. Et là, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, dans un moment. Vous savez ceci, des fois, on a l'impression que le lieu désert, c'est tellement plat, c'est tellement dur, mais c'est souvent nécessaire pour se reposer sur Jésus-Christ. Et ce n'est pas ce que l'on voit. Souvent, on a besoin, on est embarqué dans une vie où tout va tellement vite, bouge autour de nous, court autour de nous, et on passe à côté de quelque chose. Mais on a besoin de saisir. Je vais aller rapidement pour les autres. Bien sûr, il va y avoir non seulement de l'incontrôle, de l'impossibilité, ou encore qu'il peut y arriver de la fatigue, mais alléluia, nécessairement, il va y avoir de l'incompréhension. Est-ce que les disciples ont tout compris ce que Jésus leur disait, les enseignait et tout ce que Jésus faisait? La réponse est très claire, c'est que c'est non. Les disciples n'ont pas tout compris ce que Jésus leur disait, les enseignait, tout ce que Jésus faisait à chaque moment. Je ne pense pas que les disciples comprenaient tout ce que Jésus était en train de faire. D'ailleurs, on voit très clairement que certains endroits dans la Bible, ils n'ont pas compris ce que Jésus. Lorsque Jésus était est venu, que les disciples étaient dans la barque et qu'il a marché sur les eaux, en fait, ils ont pensé qu'il était un fantôme. Ils n'ont pas commencé à sauter dans la barque et dire, « Wow! En fait, le Fils de Dieu s'en vient nous rejoindre! » La réponse n'a pas été ça. C'est qu'ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer dans leur tête. Ça s'est mis à virer comme d'une façon tellement de... Et là, ils ont dit, c'est un fantôme. On ne peut pas tout comprendre. Mais alléluia, Jésus, à un moment donné, nous amène sa révélation. Autre chose, la réprimande. Suivre Christ nous amène à être réprimandés. Dans notre société, encore là, on est vraiment dans une dimension où ça a peu de valeur. Où la réprimande a peu de valeur. Je vais dire quelque chose ici. Je veux bien qu'on la saisisse dans la pensée dans laquelle on va le dire. Dans notre société, ce qui a de la valeur, c'est « t'es donc bien fin, t'es donc bien smart, lâche pas, puis tu vas y arriver. » On donne peu de valeur à la réprimande. Mais bibliquement parlant, elle a une super de grande valeur. Bibliquement parlant, alléluia, elle a une super de grande valeur, la réprimande. La Bible dit que Dieu châtie celui qu'il aime. Que Dieu va réprimander celui qu'il aime. Ne voyons pas la réprimande comme quelque chose de négatif. Voyons la réprimande comme quelque chose, alléluia, d'aller plus loin, comme de grandir, de changement, de ce que Dieu veut nous amener à sa stature parfaite. Qu'on a besoin, alléluia, quelquefois, d'être réprimandé, qu'on a besoin de recevoir, qu'on a besoin d'apprendre. Jésus, quand Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, c'était quand même tout qu'une réprimande. Puis pourtant, ça le fait que Pierre est devenu celui qui prêcherait à des milliers de personnes. La réprimande a une valeur. Ne voyez pas cela comme une dimension de ce que c'est négatif. En fait, ça nous amène, alléluia, plus loin. Bien sûr, de dire à quelqu'un, lâche pas si tu fais bien, tout ça, ça la nous amène plus loin. Est-ce que l'un, en fait, ce qu'on a besoin, c'est des deux. Ce qu'on a besoin, c'est des deux. Des fois, on a besoin d'être réprimandé. Des fois, on a besoin d'une bonne tape dans le dos, pas derrière la tête, mais dans le dos. Puis de dire, lâche pas, puis tu vas y arriver. Dieu est avec toi, puis on va être ensemble, puis Dieu est celui qui va entreprendre. Jésus le fait avec Pierre puis les disciples, mais suivre Jésus-Christ nous amène, alléluia, nécessairement quelquefois à la réprimande. Vive des moments glorieux. Je termine dans un instant. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Des moments glorieux, des moments où ils ont vu les miracles de Dieu, où ils ont vu le miracle du Seigneur. Non seulement ils ont vu le miracle de Dieu, mais Jésus leur a expliqué le miracle pour lequel il avait pris place. La foule qui côtoyait Jésus ont vu des miracles, mais n'ont pas toujours compris les miracles. N'ont pas toujours compris pour lequel les choses, le miracle se faisait. Mais alléluia, comment c'est glorieux. Je suis content de voir tout ce que Dieu fait. Mais alléluia, j'aime entendre et comprendre pourquoi Dieu le fait. Puis pourquoi il l'a accompli comme ça? Puis pourquoi il a guéri telle et telle personne? Pourquoi il a fait tel et tel miracle dans telle et telle personne? Pourquoi il a accompli le prodige et le miracle dans telle et telle chose? Suivre Christ nous amène des moments glorieux, nous amène des moments d'enseignement, d'être enseigné, d'être changé, de recevoir. Ils ont eu des moments où Jésus seul leur a enseigné, alléluia, ce que lui seul pouvait faire. Les a invités à l'écart, a pris des moments avec lui, de recevoir, suivre Christ. Ça donne que Jésus va nous enseigner des choses dans nos vies qu'il ne pourra pas dire aux autres. Je vais vous dire quelque chose, là. Il y a des choses que Dieu peut dire à des gens qui vont le suivre. Puis il y a des choses que Dieu ne pourra pas dire à des gens qui vont juste bénéficier de qui il est. Si on veut recevoir la profondeur de Dieu, de Jésus-Christ, de sa parole, on a besoin de le suivre. Nécessairement, alléluia, des moments seuls, dans l'intimité de Jésus-Christ. On va jouer l'avant-dernier chant de ce matin. Où Jésus, alléluia, est celui qui va des moments dans l'intimité avec Jésus-Christ, des moments personnels avec Jésus, où il va renverser, alléluia, les forteresses à l'intérieur de nos vies, il va renverser des forteresses. Je vais vous dire ceci, les disciples ont été confrontés dans leurs pensées. Ils ont été confrontés, ils ont vu des choses qui les ont confrontés. Je vais jouer doucement. Des choses qui les ont confrontés à l'intérieur de leur vie. Ils ont vu des choses que ce n'était pas nécessairement toujours plaisant à voir. Des fois, je me pose la question si, est-ce que j'aurais été capable de suivre Jésus-Christ et de voir ce qui s'est passé avec Jésus, ou ce que Jésus a fait. Qu'est-ce que ça m'aurait fait, moi, si j'aurais vu Jésus en train de libérer l'enfant des démons, se rouler par terre jusqu'à devenir comme mort? Est-ce que ça m'aurait tellement impacté que j'aurais dit, ben non, ça, je ne veux pas voir ça? J'aurais réagi comment? Est-ce que vous pensez que les disciples n'ont pas quelquefois été, je vais prendre le mot, choqués? À travers des choses qu'ils ont vues. Quand je dis choqué, c'est pas choqué dans le sens d'être en colère, mais que ça les a impactés dans leur vie. De voir des choses qui n'étaient pas toujours, c'est pas quelque chose qu'ils s'attendaient. Est-ce que des fois, ils ont été un peu impactés de se retrouver dans une mer agitée, puis où après, ils vont dire, n'est-ce pas, celui que même le vent et la mer obéit. Quand ils disent ça, là, ça ne vient pas de quelqu'un qui sont bien relax et que tout est beau. Là. Ça vient de gens qui viennent de se faire étirer pas mal large. Que l'élastique est étiré au max. Là. Je reviens sur quelque chose. On a vécu quelque chose dans l'Église voilà quelques semaines, quelques mois, une délivrance. Ça peut nous choquer. Où on peut rendre gloire à Dieu. Ça peut nous étirer quelquefois. Des fois, et je suis en train de dire qu'on a besoin d'une fondation qui est solide, je vais le mentionner dans un instant, mais des fois, Dieu renverse des forteresses dans nos vies, des choses qu'on a élevées, de ce que Dieu devrait faire, de comment il devrait le faire, puis pourquoi il devrait le faire. Mais savez-vous, quand je regarde les disciples, c'est les disciples qui se sont mis au contraire. Jésus n'a pas été dans la dimension de plaire à Pierre. Il était dans la dimension d'amener Pierre à le suivre. Est-ce que Jésus a voulu plaire, faire du bien à Pierre? Bien sûr que oui. Mais des fois, nos conceptions, nos vies, on a élevé des choses. Nos attentes. Il faut que Dieu fasse ça de même. Dans le temps qu'on voudrait qu'il le fasse, de quand il devrait le faire. Et on a élevé des conceptions que Jésus a besoin quelquefois de renverser. Cela était vrai, alléluia, dans la vision de Pierre. Quand Dieu lui a dit, pourtant Jésus est allé assis à la droite, puis Dieu va dire à Pierre, « Pierre, tu y manges. » Et Pierre va dire, « Jamais rien d'impur, Jésus est entré dans ma bouche. » Tu me demandes de faire quelque chose qui est contre ce qui, dans ma tête, j'ai entendu pendant des dizaines et des dizaines d'années.
J'ai toujours fait ça, Seigneur. J'ai jamais rien d'impur ni entré dans ma bouche parce que c'est ce qui m'a été dit. Tu me demandes de faire quelque chose qui est contre. Tu m'étires jusqu'au point de renverser ce qui était pour moi une barrière de ce qui était correct. Puis en fait, Dieu était en train d'enseigner que maintenant, alléluia, les païens pouvaient recevoir Jésus-Christ. Que Pierre, tu peux être aussi maintenant cet outil. Je termine avec un texte et je pense qu'on va faire, on va juste terminer avec la prière. Je vais alors avancer. J'aurais prié plus de temps un peu pour ce texte-là, je le ferai peut-être dans une autre occasion. Mais lorsque j'ai pensé, il y aurait plein de choses que j'aurais pu mentionner que je ne veux pas faire dans la vie des disciples. Mais si tu veux suivre Jésus-Christ, alléluia, il n'y a pas de plus belle vie. Il n'y a pas de vie plus glorieuse avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de vie meilleure. Ne te contente pas, alléluia, d'être quelqu'un qui bénéficie de qui il est. Engage-toi, alléluia. Engage-toi. Dans Isaïe chapitre 54, le verset 2, ça dit, et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai ce texte-là, alors que j'étais en train de préparer, ce texte-là a remonté dans mon cœur. Et quand j'ai lu ce texte-là, j'ai compris que ce texte-là, c'est ce que Jésus a fait avec les disciples. Il va dire, élargis l'espace de ta tente. Pierre, Jean, vous allez devenir, je vais élargir vos vies. Je vais déployer dans vos vies les couvertures, ce qui semblait, et là c'est les rideaux. Je vais ouvrir les rideaux sur votre vie, vous auriez jamais pensé ou imaginé jusqu'à maintenant. Et là, il va dire, ne retiens pas. La réalité, c'est Pierre, Jean, ne retiens pas ce que je veux faire dans ta vie. N'empêche pas, Pierre, ce que je veux accomplir dans ta vie. Allonge les cordages, étire dans ta vie. La tente va devenir plus grande. Tu as besoin que les cordages s'étirent, qu'elles s'enfoncent. Affermis les pieux, être enraciné dans les principes de la parole. L'une des choses, alléluia, que Jésus a enraciné dans leur vie, c'est la parole en fait. Et à travers ça, l'Église a continué à être bâtie sur l'enseignement des apôtres. Parce que ces hommes, alors qu'ils ont été avec Jésus-Christ, ont affermi leurs pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, n'est-ce pas ce que les disciples ont fait, que ce que l'on est aujourd'hui. Ta postérité envahira des nations. C'est ce que Jésus a fait dans la vie de Pierre, dans la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Et peuplera des villes désertes. Je vais amener dans des endroits, alléluia, où Dieu seul peut le faire. Et là, ça dit ceci, ne crains pas. Pierre, tu vas mourir de telle façon, mais peut-être, Pierre, tu as de la crainte dans ton cœur, mais je veux te dire, ne crains pas, Pierre. Je vais être avec toi. Nathanaël, suis-moi. Je t'ai vu sous le figuier et je vais continuer de te voir après. Et là, ça dit, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. C'est pas un déshonneur de suivre Christ. Peut-être que c'est pas ce qui nous est relaté comme un honneur dans notre société. Mais la réalité, c'est que c'est un privilège qui peut être donné à tous. Et ça dit, mais où tu oublieras la honte de ta jeunesse. N'est-ce pas ce que Jésus a fait avec Pierre, alors que Pierre l'avait renié? Pierre, paie mes brebis, Pierre. Et alléluia, le dernier du verset 4 et le verset 5, ça dit ceci. Car ton Créateur est ton époux, le verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel désormais est son nom. Et là, regardez bien le texte. Et ton Rédempteur, le Saint d'Israël, il se nomme Dieu de toute la terre. Fiouf! Ton Rédempteur, ton Créateur, alléluia! Celui qui t'a formé et se dit est ton époux, ta proximité, l'intimité, la communion. Alléluia! Ce Créateur-là, ton époux, l'Éternel des armées, ton Rédempteur, est le Saint d'Israël et il se nomme. Son nom est le grand Je suis d'Exode 3:14. Le grand Dieu. Est-ce que c'est toujours facile de suivre Christ? La réponse est non. Mais Jésus a promis avant sa mort et après sa mort qu'il serait avec eux. Nous avons le Saint-Esprit qui est un aide. Aujourd'hui, je dis en terminant, tu es où, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, par rapport à ta suite après Christ? Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité. Apprends-nous, Seigneur, s'il y a des gens, chacun d'entre nous dans ce lieu. Seigneur, je n'ai pas toujours l'impression qu'on a suivi, que j'ai suivi, que j'ai été, Seigneur. J'ai eu souvent à penser, Seigneur, que j'ai été comme Pierre. Et Seigneur, on veut te suivre. Que partout dans ce lieu, Seigneur, ce matin, on puisse s'arrêter, se poser la question, de prendre un moment avec toi durant cette semaine et de s'arrêter de là où on est, de là où on devrait être. Et Seigneur, qu'en toute chose, ton nom soit glorifié. Et apprends-nous à te suivre. Seigneur, parce que la plus grande richesse sur cette terre n'est pas de bénéficier de tout ce que cette terre a. Seigneur, dans le jardin d'Éden pour Adam et Ève, le plus glorieux n'était pas tout ce que le jardin pouvait leur procurer, mais c'était cette communion avec toi. Seigneur, nous voulons dire Alléluia, nous voulons te suivre, nous voulons marcher avec toi. Et Seigneur, dire, déclarer par ta grâce, pas Seigneur en sachant ou pas, c'est pas sans crainte, c'est pas Seigneur sans peur. C'est pas, Seigneur, sans questionnement. C'est pas sans incompréhension. C'est pas sans impossibilité. Seigneur, c'est pas sans avoir l'impression que, Seigneur, on vit de l'incontrôle, où il y a des choses qu'on contrôle pas. Mais nous voulons dire, Alléluia, par la foi, je te suivrai, Seigneur. Dieu, puisses-tu nous garder sur le chemin du retour. Et merci pour tout ce que tu veux faire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et amen.